Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec la chanteuse Angélique Kidjo. Pour The Guardian, Angélique fait partie des 100 femmes les plus influentes du monde. Le Time Magazine l'a nommée première diva africaine. Et ici, à Nova, elle est notre sœur et celle que l'on suit partout.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Angélique Kidjo, on croise le monde entier. On chante pour la justice et pour la paix, pour le droit des femmes et la reconnaissance des tirailleurs africains. On se drape de pagne, de cuir et des symboles de la République française. Le tout avec fierté, humour et courage. Angélique a grandi à Cotonou, au Bénin. En 1983, elle fuit la dictature et vient apprendre la musique à Paris. On s'est donné rendez-vous rue Doudoville, dans le 18e, devant son ancienne école de jazz. Ensuite, on s'est frayé un chemin au marché entre les étals de manioc, de piment, de plantain, et on a atterri dans une boutique de tissus. En voiture, avec Jean, son mari, on a filé sous l'Arc de Triomphe, là où elle a chanté le 11 novembre dernier, devant tous les chefs d'État. À la dérive, ça commence ici, dans la rue, sur une histoire de parking karma.
À la dérive, avec Aurélie Sfez.
Karma incroyable.
Ouais, ça y est, ça tourne. Hein.
Ah, ça tourne.
Dis pas ça tout de suite parce que des fois ça marche pas, mon parking karma.
C'est quoi le parking karma, Angélique?
Dans Paris, j'arrive toujours à trouver une place pour qu'on se gare. Ben,
moi j'appelle ça le dieu de la place.
Le dieu de la place, d'accord, je prends aussi.
Vous l'avez vu, parce que moi je l'ai, le dieu de la place.
Ouais, moi je l'ai. Je l'ai. Il me disait quand on arrivait dans la rue. Hey, mais fais jouer ton parking karma. Je dis là devant toi, il y en a un. Il m'a dit, mais comment tu fais?
Parking karma, je peux vous le piquer?
Oui, allez-y.
Alors, on s'est garé et avec la voiture de votre mari, Jean.
Qui veut... C'est ma voiture.
Ah, pardon. Oui, vous voyez le réflexe à la con?
Ouais, tout le temps, on pense toujours, mec.
Je m'en suis même pas rendu compte.
Non, ouais, mais c'est. Il faut se désintoxiquer, quoi.
En même temps, c'est lui qui était au volant et c'est lui qui avait les clés. Non,
parce qu'il a pas voulu. Je voulais pas conduire, je voulais me reposer, moi.
Alors, on est avec votre voiture qui est garée là grâce à votre parking karma. Rue
Doudoville.
Doudoville,
ouais,
dans absolument. Le 18e.
Ouais.
On est avec Jean, votre mari, mais qui parle pas parce qu'il a décidé qu'il serait discret.
Mais il est comme ça, lui.
Il est grand avec son chapeau.
Mais c'est moi qui lui ai acheté le chapeau aussi.
Son sac, sa besace et son chapeau, on dirait un cow-boy.
Ah, mais son ordinateur, il vit avec. C'est sa deuxième femme ou sa première femme, je sais pas. C'est, ouais. Ça dépend des jours.
Sa maîtresse?
Oui, sa maîtresse, ça c'est sûr. Et on fait de la musique ensemble. Le plus important, c'est qu'on écrit la musique ensemble.
Vous composez ensemble?
Absolument.
Depuis 30 ans, je crois.
Oui, on fonctionne bien, un binôme.
Alors, vous m'avez dit rendez-vous rue Doudoville, dans le 18e, parce que c'est là où vous vous êtes rencontrés, Jean et vous.
Exactement, au CIM. C'était incroyable, cet endroit, parce qu'au fond, il y a aussi une cour où on faisait des concerts de fin d'année. On s'amusait beaucoup, on était vraiment inconscients. Et puis, Ah là là, je me rappellerai toujours les escaliers pour monter.
Un labyrinthe d'escaliers.
Un labyrinthe d'escaliers, on ne voyait pas vraiment. Et je me rappelle avoir demandé à deux jeunes filles qui descendaient les escaliers où est-ce que je pouvais m'inscrire. Et elle me dit, mais pourquoi faire? Je dis, mais c'est une école de jazz, je viens pour m'inscrire. Et là, l'une d'entre elles dit, mais vous êtes africaine? Je dis, oui. Elle me dit, mais le jazz, c'est pas fait pour les Africains. Je dis, mais je m'en fous, moi, j'y vais quand même.
Non, mais c'est vrai. Ça veut dire que ces filles-là, de la réception, elles n'avaient jamais entendu parler de Myriam Makeba, jamais entendu parler de Nina Simone.
Billie Holiday, forcément, mais... Myriam Makeba, non, je pense pas que c'était... Je pense pas que c'est toi. Il faut pas oublier qu'il y a quand même une ignorance... par rapport aux musiques qui viennent de l'Afrique. Quand je suis arrivée ici, ça a été ça. Je me rappellerai mon premier contact avec des jeunes Français ici, ça a été, alors, comment tu vas faire tes courses chez toi? Il y a des voitures là-bas ou tu vas à dos d'éléphant? Je lui dis ouais, et puis j'ai les singes aussi qui portent pour les bananes pour moi. Ça a été une école de musique pour moi, mon parcours, mais aussi
une école de vie
pour comprendre que bon, mais on a beau parler la même langue, on ne parle pas de la même façon, on ne réfléchit pas de la même façon. Et que pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on a à partager ensemble, en fait. Que ce soit de la musique, que ce soit dans les idées, ce n'est pas la couleur de peau. C'est difficile, hein, le monde de la musique.
Il y a des conflits quand même.
Le monde de la musique n'est pas facile. Quand on est femme dans le monde de la musique, on vit dans un monde
patriarcal.
Et ce monde n'est pas prêt à changer tout de suite. Ça changera peut-être un jour quand les femmes comprendront que élever un garçon et une fille, on doit les élever de la même façon. Et qu'on ne peut pas élever un petit garçon en disant « ta sœur, elle a moins de valeur que toi ». Non, tout le monde a le droit de parler. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père disait justement « parler ».
Parler, argumenter.
Argumenter. C'est là où on se rend compte que les femmes qui réussissent dans la musique et qui réussissent sur le long terme, c'est des femmes qui sont obligées d'être devenir dures. Et moi, je refuse d'être dure. Je ferai ce que je peux avec mon talent et mon talent n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité et que la musique, pour moi, est un langage universel qui me permet de construire des ponts. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful world. Letting the days go by. Letting the days go by. Into the blue ocean. Once in a lifetime.
Vous arrivez à Paris en 1983 pour fuir la dictature au Bénin. Mmh.
Je suis partie de Cotonou le 11 septembre 1983. Je suis arrivée ici le 11 septembre 1983.
Et c'était pour fuir voilà, Mathieu Kérékou. Le dictateur.
Mais le dictateur, la dictature communiste, c'est quelque chose qui est quand même assez antinomique pour moi. Parce que la philosophie du communisme, c'est le pouvoir par le peuple. C'est l'égalitarisme, alors que la dictature communiste est complètement en contradiction avec cette philosophie-là. Les gens en Occident, au jour d'aujourd'hui, ce que je remarque, les gens jouent avec leur propre liberté. Et ils ne se rendent pas compte que c'est un danger. De croire à des dirigeants qui leur disent « Le populisme, c'est la voie de la solution de la globalisation du monde qui se transforme dans lequel on vit », au lieu de trouver des solutions ensemble. On a des gens qui ne sont pas pauvres, mais qui manipulent les pauvres pour arriver au pouvoir. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Et il faut s'informer. Il faut être éduqué pour savoir que ce que Hitler a fait n'est pas un modèle à suivre. Et que toutes les violences qu'on impose aux autres, ça revient. Staline, ce qu'il a fait, n'est pas un modèle à suivre. Franco, ce n'est pas un modèle à suivre. Mussolini, tout ce qui a causé des violences n'a jamais marché sur le long terme. Je pense que ce qui appelle à la haine et à la violence, sur Internet, on doit les trouver. Et les mettre en prison.
C'est pas un programme politique.
Parce que la violence, c'est comme un vortex. C'est-à-dire, quand on commence, on est rempli d'adrénaline, mais le vortex qu'on commence à créer vous emporte.
Vu qu'on est devant cette école, je recontextualise un tout petit peu. Vous arrivez ici à l'école, vous apprenez l'histoire du jazz.
Il faut savoir que sous la dictature communiste qui est arrivée en 72, la radio à Cotonou est devenue une radio de propagande. C'est-à-dire que cette radio était vraiment une référence pour moi en tant que chanteuse. Bien avant que les disques ne soient achetés chez moi, je les entendais à la radio.
Comment elle s'appelait cette radio ?
Les radios nationales du Bénin. Ouais. L'ORTB. Il n'y a plus le choix. La liberté de la presse n'existait plus. La liberté de parole n'existait plus. La paranoïa qui s'est installée fait que même à chez soi, on n'était plus en sécurité parce qu'on ne savait pas qui était qui. Donc, quand je suis arrivée en France, j'étais en sevrage de musique. Il y a une décennie de musique
Inconnu.
Totalement inconnu.
C'est un truc de fou, je ne sais même pas Higelin. Gainsbourg, ça s'est arrêté à couleur café et puis le reste, on n'a plus rien plus. Nougaro. Il y avait plein d'artistes que je ne connaissais plus. Ça a été ça, me plonger dans la musique française pour rattraper mon retard et le jazz pour compléter mon amour de gens comme Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson que j'écoutais, Louis Armstrong que j'écoutais par mon père et puis Sidney Bechet que mon papa jouait sur son banjo. J'ai commencé les cours de chant.
Les cours de solfège
Les cours de solfège. Mon prof de solfège, ici même, m'a dit, dans cette pièce-là.
Dans cette pièce, au premier, là
ouais. M'a dit, Angélique, casse-toi d'ici. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, moi, je tuerai mon père et ma mère pour la mémoire musicale que t'as. Casse-toi d'ici, quoi. T'as pas besoin de ça. Je dis, ouais, je m'en vais. Je suis partie, mais j'étais trop contente.
Alors, on dit que souvent, quand on part de chez soi, on redécouvre chez soi autrement.
Ça, c'est clair.
Comme avec une lunette, comme avec une longue vue.
Ah, mais c'est clair. Pour pouvoir aller ailleurs, il faut savoir d'où on vient. Il n'y a jamais rien que je fais sans mes racines béninoises. Impossible. Il y avait énormément de musique qui passait à la maison quand même. Mes frères faisaient de la musique. Mon père avait acheté les instruments pour mes frères.
Vous étiez 10 en tout, la fratrie.
Big Bang. C'est pas tout le monde qui faisait la musique. On était 3 à faire de la musique. Mon frère qui faisait la guitare, l'autre qui faisait la basse. Et moi qui chantais un peu. À aucun moment, je me suis posé la question de savoir si pour réussir, je devais mettre mon identité culturelle de côté. Jamais.
Et vous avez aussi rencontré votre chéri. Jean, qui est avec nous, mais qui ne parle pas. Ben dans oui. Cette école.
Bah, c'était la fête de la musique, en 1985. Et je n'avais pas de groupe. J'ouvre la porte. Ils étaient tous dedans en train de fumer. C'était la période où on fumait dans les classes. Là.
Moi, je suis arrivé. La belle époque.
Ah ben, pas pour moi. Moi, je suis asthmatique, je peux pas, moi. Donc, j'ouvre la porte, je dis, personne ne fume ici. Et puis après, il me dit, des années plus tard, il me dit, quand t'as dit ça, je me suis dit dans ma tête, mais c'est qui cette gourgandine-là? Et c'est pour qui cette pète? Et 2 ans après, on a commencé à travailler ensemble et ça a été, ça fait 32 ans bientôt.
32? Hein Jean, vous nous écoutez, vous dites rien, mais...
Il sourit.
Nova. Take a look at these hands. Take a look at these hands. The hand speaks. The hand of a government man.
Là, c'était ma rue préférée.
Alors là, on est vers le marché des gens, Château-Rouge.
Exactement. Ça a changé énormément. Et là aussi, le poisson, j'ai acheté le poisson ici. Et je faisais des fêtes dans un 25 mètres carrés pour une quinzaine de personnes. La cuisine était dans le placard.
Le lit dans la baignoire.
Le lit, on mettait, c'était un canapé-lit.
Les toilettes dans le frigo.
C'est pas possible. Je mettais toute la journée à cuisiner. Je me levais tôt le matin pour venir chercher le poisson, tôt ici. Je n'étais pas du tout dans le mood de me trouver un partenaire de vie. J'étais moi focus musique complètement. J'y ai pas pensé du tout. Je ne cherchais pas un partenaire. Ça s'est fait. Boum, je me suis dit, celui-là, il me plaît. Et il savait que je tombe sur un mec qui a la même obsession de la musique que moi. Et ce qui était important pour moi aussi, il ne faisait pas des blagues racistes. J'ai pu remettre en perspective les commentaires racistes qu'on m'a fait quand je suis arrivée. Parce que les gens n'ont aucune connaissance de l'Afrique. Dès que j'ai commencé à lui jouer de la musique traditionnelle de chez moi, c'est comme si c'était une résurrection. Quoi. Elle a dit, mais c'est ça. Quand j'étais en Afrique, ça a toujours été mon malaise par rapport aux Occidentaux qui arrivaient. Ils étaient tous là en train de dire, quand on est noir, on est forcément une pute. Donc, ils sont en train de chercher l'exotisme. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans ce quartier?
Je me ressens un peu. C'est un petit bout d'Afrique qui est reporté par ici. Vous voyez, les femmes s'asseyent, on vend les légumes comme on vend en Afrique. Et les jours de marché, c'est comme ça. Avant, c'était les Africains qui tenaient tous ces magasins. Maintenant, c'est les Asiatiques.
Ce que j'allais dire, c'est un mélange d'Afrique, mais aussi d'Asie, des Antilles, un peu de Cuba.
On est partout. Quand je vois les racistes qui me disent « rentre chez toi », je dis « mais rends-moi ce que tu m'as pris ». Sans les ressources de mon pays, la France n'existe pas, l'Europe n'existe pas, l'Amérique n'existe pas. Qui c'est qui a construit les richesses des pays riches? C'est les esclaves. On n'a pas envoyé une carte d'invitation aux gens de venir nous chercher. Et il faut qu'eux aussi, chacun prenne ses responsabilités. Moi, je dis toujours, c'est bien facile, nous les Africains, de blâmer les autres, mais qu'est-ce qu'on fait depuis pour régler nos problèmes? Si on veut être perçu autrement, c'est un travail de titan qu'il faut faire pour rendre responsables nos dirigeants.
Et alors, quand on regarde cette rue, ici, on est rue des Poissonniers, là-bas, la rue des gens.
On voit le monde entier.
On voit le monde entier. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous fui quelque chose pour venir à Paris.
C'est humain de vouloir avoir une vie meilleure. Tout être humain a le droit d'avoir 3 repas par jour, un toit sur la tête, de l'eau à manger. Les Occidentaux, quand ils vont ailleurs, ils sont considérés comme des expatriés. Quand les Africains arrivent ici, c'est des immigrés. Et pourquoi? Mais tant qu'on ne se connaîtra pas mieux, l'antisémitisme continuera à exister, le racisme continuera à exister, la xénophobie continuera à exister. Et c'est par l'éducation qu'on arrive à faire comprendre aux gens que détester l'autre, c'est te détester soi-même. La haine ne vient pas de l'extérieur, ça vient de toi.
Tu n'es pas ennemi, c'est soi.
Ah ben c'est clair. C'est clair. C'est clair et net. Il y a du piment. Oh là 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 là. J'ai envie de faire des courses là direct.
8,20€.
Pour amener les trucs, les plantains. La sauce graine, je ne fais plus. C'est trop gras pour moi. Il y a des patates douces. Ça, c'est à checker. Ça, c'est du manioc, ça. C'est de l'igname. Les lignames, on fait une farine de ça aussi. Et on fait aussi un truc qui ressemble à ça, mais qui est brun, qui est noir, qui s'appelle Wassa Wassa.
Alors, je crois qu'il y a un marché au tissu que vous aimez bien, un magasin de tissu.
Oh, il y en a plein par là.
Il faut les trouver. C'est dans les rouilles.
Par là-bas. Ah, Jean, il nous fait signe là-bas.
Je vous amène.
Parce que vous avez toujours des tenues, Angélique, c'est incroyable.
Ah, mais les tenues, je les achète pas dans les magasins. Mes pagnes viennent directement de chez Visco. J'ai une styliste avec laquelle je travaille, que je rends complètement dingue. Je lui dis, dessine, commence à dessiner. Non, pas ça. Les manches, pas comme ça. Elle me dit, mais tu es folle.
Bonjour.
Voilà, c'est ça, les tissus Visco que je vous parlais. Ça, c'est le super wax, ça, c'est le wax hollandais. Moi, ma grand-mère a commencé à les vendre. J'étais gamine, hein, quand ma grand-mère a commencé à les vendre.
Ah, votre grand-mère, elle vendait les tissus?
Mais c'est elle qui a commencé le commerce du tissu dans les marchés.
C'est vrai? Elle est l'initiatrice du commerce de tissus dans les marchés.
Au départ, les femmes n'étaient pas dans les marchés. C'était que les hommes.
Ah, moi, je veux bien.
Le nom du magasin, c'est Waxbury.
Ouais. Et on est à quelle adresse?
33 rue des Poissonniers.
Et vous vous appelez comment?
Moi, je m'appelle Hélène.
Il a une tête d'Hélène, lui. Ah non, mais attends, je rêve. Hein.
Alors moi, je m'appelle Marcel.
Marcel.
Et moi, je m'appelle Guy. Ouah, j'adore ce pain. L'hibiscus là-haut, là.
Monsieur Hélène.
Celui d'en haut. C'est Monsieur Hélène. L'hibiscus, là. Oh, maman. Oui, celui-là. Ouais.
Voilà.
Ça, j'adore. Je l'ai mis sous la couverture de mon album qui va sortir. Cecilia Cruz. Hélène, il m'en fait un deuxième. Je veux le classique. Moi, j'ai connu ça, j'étais toute gamine. Les femmes mettaient ça au béné avec... Il y a du jaune, il y a du bleu. Allez, hop. La prochaine fois, je reviens avec d'autres personnes.
Il y a un bon retour de wax en ce moment. Hein.
Ben oui,
c'est la grande mode. Hein.
Cette année, on va faire un grand arrivage.
C'est la wax. Les matières, c'est la wax qu'elle peut faire.
Au revoir Hélène, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de Radio Nova?
Gros bisous tout le monde, allez au revoir.
Bisous bisous.
Ouais, bisous bisous.
Bonsoir tout le monde, c'est Angélique Kidjo sur La Dérive avec Aurélie sur Radio Nova.
Bombaro po.
ça là, j'ai la chance de trouver ça. Je cherchais depuis longtemps. Hein. C'est grave.
Tout se combine, féminisme et féminité.
Féministe ne veut pas non plus dire être en guerre contre les hommes. Ce que nous apportons dans nos sociétés doit être reconnu. C'est pas seulement, nous ne sommes pas que des reproductrices.
J'aime bien quand vous dites c'est Adam qui a croqué dans la pomme, c'est pas Ève qui lui a mis dans la bouche.
Il n'a pas été violé, c'est ce que je dis. Je dis, si on me dit que ce que je raconte est faux, on n'a qu'à accepter que le sexe fort, c'est la femme. Voilà.
Montez dans la voiture, dans votre voiture.
Et dans notre voiture.
Allez Jean, faut braquer là.
Braque, allez, les biscottos, ils sont où?
Alors où est-ce qu'on va Jean?
Non, il ne parle pas. On va...
À l'Arc de Triomphe.
Avant, je vais passer d'abord devant la salle Pléel. Ouais.
Pour en revenir à cette histoire de votre mère qui vous faisait les costumes quand vous étiez petite, vous chantiez aussi dans son groupe. À Cotonou.
À Cotonou, qui demandait l'émancipation. En fait, leur groupe, c'était pour l'émancipation de la femme. Donc, elle chantait une chanson de Myriam Makeba sur laquelle ils avaient mis des paroles en fond.
C'était laquelle, cette chanson?
The Retreat Song. Moi, je chantais ça. Moi, j'étais tout le temps fourré. Dès qu'il y avait de la musique quelque part, j'étais toujours fourré. Au lieu d'aller faire mes devoirs, j'étais toujours fourré là, en train de tendre l'oreille. Hein? Il y a de la musique quelque part. Et j'apprenais très vite les chansons.
My roots, of course, are
mes racines sont évidemment sud-africaines et la plupart des chants que je chante sont surtout des chants sud-africains. Je chante aussi bien sûr des chants d'autres parties d'Afrique comme le Congo, l'Éthiopie, la Guinée et d'autres parties du pays. Mais je pense que ma vraie vocation est de chanter des chants sud-africains où je suis beaucoup plus à mon aise. Je chante aussi des chants venus d'Europe, mais je me sens plus moi-même quand je chante des chants de mon pays, et plus particulièrement ceux de ma tribu.
Vous avez toujours aimé chanter, vous chantiez tout le temps.
Ah ouais, je chantais tout le temps.
Et votre maman aussi, elle chantait.
Ah ouais, je lui ai parlé ce matin, si j'avais commencé à chanter, je ne serais pas encore ici. Hein.
C'est vrai?
Ah ouais. Elle dit, tu connais cette chanson, tu devrais chercher celle-là. Je dis, maman, tu me chantes tellement de chansons, je ne me rappelle pas de tout.
La musique, elle vous a sauvé de quoi, Angélique Kidjo?
De l'ennui. C'est comme respirer pour moi, chanter. Depuis que je m'en souviens, j'ai toujours chanté. Mon père avait l'habitude de dire que j'ai commencé à chanter avant de faire des phrases.
Vous étiez quel genre de petite fille? Pile électrique?
Ah ouais, oh là là, purée. Quand je m'ennuie, je n'ai pas un truc à faire, je suis infernale. J'étais là tout le temps, poser des questions non-stop.
La toupie.
Ah ouais, c'est l'enfer. Les gens n'arrêtaient pas.
Mais est-ce que vous avez un point faible, Angélique? On a l'impression que vous êtes insubmersible.
Ah non, non.
Vous avez un point faible?
Ah mais c'est la fatigue. Le jet lag, c'est compliqué, hein.
Vous vous sentez bien à New York?
J'adore. J'adore New York. Parce que c'est comme moi, et ça bouge tout le temps. C'est un truc de dingue. Je te mets là.
Vous restez là, Jean?
Ouais.
J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building,
oh, c'est haut.
Rockefeller Center,
oh, c'est haut.
À la dérive, avec Aurélie Sfez.
Et avec Angélique Kidjo, on a changé de quartier pour se retrouver en face de la salle Playel, pas pour chanter, mais pour récupérer des jupes en cuir. Hyper féminine, cuir ou wax, chaque tenue a un sens. Diva, déesse, elle porte haut et fort les étoffes et les idées. Pour la Women March de Washington, elle a chanté. Pour les commémorations du 11 novembre dernier, elle a chanté, ici sous l'Arc de Triomphe, chanté sans cesse pour les femmes et les tirailleurs africains, chanté devant ces hommes de pouvoir et défié leurs regards. Dériver avec Angélique Kidjo, c'est du costaud et c'est rigolo.
Pourquoi la salle Playel ? Rue du Faubourg Saint-Honoré, très chic.
Moi, je viens pas souvent dans ce coin-là. Alors, bon. Je suis là.
Bonjour.
Je suis venue par là, j'ai trouvé ce magasin.
Mais alors moi je croyais que vous m'ameniez salle Playel pour la salle Playel, mais pas du tout. C'est pour la jupe en cuir.
Ah ouais, exactement. Ah ouais. La salle Playel.
Je me suis dit, on va parler musique classique.
Ah ouais, ouais, ouais.
On va aller voir la salle Playel. Que dalle.
Je ne rentre pas dans la salle Playel, moi. J'y rentrerai bien un jour, alors faites voir.
J'espère qu'on sera invité, hein.
Bonjour.
Ça, c'est
bonjour.
Pas sûr. Oh, vous avez mis les choses de côté, merde, c'est bien.
C'est une jupe, pantalon.
Et ça, c'est celle-là.
En cuir.
Ouais.
Ça, c'est pour un spectacle.
Non, non, pour le kiff, pour les interviews, pour un truc.
Elle est super, c'est vous qui l'avez faite?
Oui.
On est où ici?
Vous êtes chez Signature Cuir, un des derniers artisans français de cuir.
Si je veux me faire une petite jupe en cuir...
Avec plaisir.
Je viens vous voir.
Exactement.
Vous ferez une ristourne?
Avec plaisir.
Parce que moi j'en rêve, hein,
c'est de la Radio Nova.
C'est Radio Nova. C'est votre prénom, c'est
Nathan.
Bon, je vous présente pas Angélique. Hein. Là, vous avez fait la jupe pour la diva.
Une diva incroyable.
Qu'est-ce que ça fait de faire une jupe, Nathan, pour une des 100 femmes qui comptent le plus dans le monde, selon le Guardian ou le New York Times, je ne sais plus lequel des deux.
Moi, je ne sais pas non plus.
C'est toujours c'est des clients qui sont en plus adorables très souvent et avec qui on a vraiment plaisir de travailler.
Moi, je soutiens l'artisanat partout, en fait. Le travail de la main, des mains. Et...
Ouais, mais on dirait une robe de une jupe de sirène.
Exactement, c'est une forme sirène. Hein. Mais c'est sublime, porté, c'est exceptionnel.
Et pourquoi se...
Pourquoi se priver, hein?
Ah, pourquoi se priver quand on peut le faire? J'adore l'odeur du cuir.
Ah, moi aussi.
Je suis
c'est pas très vegan. Hein.
Vegan, mais attendez, laisse tomber. Là. Ça va passer.
Moi, par contre, ça m'intéresse vraiment de répondre à cette phrase. On n'a que des cuirs français ou italiens ici. C'est que des cuirs d'élevage pour la nourriture et on récupère les peaux. C'est quelque chose auquel on tient vraiment. C'est pour ça que vous ne verrez pas de vison, vous ne verrez pas de chinchilla.
Ils ne sont pas morts pour le cuir.
Non, la différence surtout, c'est qu'un élevage pour la peau, c'est des animaux qui sont tués très jeunes, très tôt, qui ont pour beaucoup pas vu la lumière du jour. Et dans les qualités de cuir qu'on travaille, c'est que des animaux qui ont vécu en liberté, etc. Et ça se ressent sur le cuir, des qualités dans cette souplesse, etc. Par exemple, ce cuir-là vient de chez Hermès.
Et c'est moins cher que d'aller chez Hermès.
Exactement.
Un dixième du prix.
Et vous habillez qui d'autre?
On a créé, par exemple, des modèles récemment pour Monsieur Depardieu.
Il faut beaucoup de matière. Hein.
Du sur-mesure. Il en faut un peu plus maintenant qu'avant. Parce qu'on lui avait fait des choses il y a un moment. Mais c'est un bon vivant. Mais c'est ce que je vous disais, c'est qu'on travaille avec des artistes qui sont...
Qui vivent bien. Et parce que le cuir doit vivre, quoi.
Faire vivre le cuir, il faut un corps qui aime le cuir.
Ah, c'est clair. Il faut des formes. Et même quand on n'a pas de forme, il faut habiller le cuir.
On vient ici, on met une jupe, on va salle Playel.
Ah ben oui, hein, pourquoi pas.
Et vous avez fait une œuvre avec Philippe Glass.
Oui, d'accord. C'est la symphonie numéro 12 de Philippe Glass. En fait, il avait pris les chansons de David Bowie, de sa trilogie de Berlin, Loe Heroes, pour faire... et là, c'est le troisième qu'il a fait, Lodger. Donc Lodger, il a enlevé la musique, il a pris la poésie, il a écrit toute la musique. Donc on a fait la première à Los Angeles en janvier.
Et alors, avec Philippe Glass, c'est comme si vous créez un autre continent. En fait, un autre univers.
Ah, mais c'est lui qui dit. Hein. Philippe Glass, il dit que...
Vous avez fait des ponts.
On construit des ponts sur lesquels personne n'a encore marché pour l'instant.
Voilà.
Mais c'est un bonheur de chanter ça. Mais chanter avec un orchestre, c'est une autre technique.
Bisous, bisous.
À bientôt.
Elle est où la voiture?
Elle est tombée amoureuse de ma jupe. Je ne lui donne pas ma jupe.
Je vais vous la piquer.
Non, alors là, jamais de la vie.
Non, mais à un moment donné, vous l'aurez trop mise.
Ah non, non, non.
Vous en aurez marre.
Ah non, moi, mes cuirs, je les garde toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Il s'en va, tu vas te garer là.
Ok.
Parking Karma, allez hop.
Parking Karma.
Et voilà, bah.
C'est dingue.
Ouais. Alors, on peut payer le parking.
Ça va, Jean?
Ça va, ça va.
Ah, ça va, ça va. C'est tout ce qu'on saura.
Retour sur les lieux du crime.
Retour sur les lieux du crime, comme dit Jean. On est avenue Hoche, en face de nous, l'Arc de Triomphe, les lieux du crime.
Et il pleut pas, comme aujourd'hui, dit Jean. Il fait pas froid.
Aujourd'hui, il fait pas froid, comme ce fameux 11 novembre où vous avez chanté Bléou.
Oui.
De la chanteuse Bella Bello.
Bello.
Chanteuse togolaise.
Absolument.
Pour la commémoration de l'armistice, c'était le 11 novembre, ce 11 novembre 2018, devant 70 chefs d'État. Que des hommes. On voit sur la photo Angela Merkel.
C'est symptomatique du monde dans lequel on vit, non? Moi, j'ai une théorie. Je crois que les hommes ont peur des femmes.
Jean, vous avez peur? Il fait oui. Il opine du chef.
Mon père avait l'habitude de me dire, moi, que le machisme, c'est l'insécurité de l'homme. Quand un homme accepte son côté féminin et l'embrasse, ça n'enlève rien à sa virilité. Il y avait l'évangile des femmes. C'est passé où, les évangiles des femmes? Disparu. C'est la personne qui raconte l'histoire, qui kidnappe l'histoire, qui prend le pouvoir. Et donc, c'est ça, le truc. Avenue de la Grande Armée, c'est tout droit.
Est-ce qu'on vous a reproché, Angélique, d'avoir chanté pour ce 11 novembre à la demande d'Emmanuel Macron?
Les extrêmes de droite, oui. J'ai reçu beaucoup de choses sur mon Facebook ou mon Twitter, mais ça ne me touche pas, moi, ça. Par exemple, le père Le Pen a tweeté en disant que c'est quand même dommage que ce soit une noire en boubou qui vienne représenter la France, que s'il s'en souvient bien, mon pays a été colonisé par l'Allemagne. Donc il y a eu un tollé, tout d'un coup il a enlevé. Donc moi, rendre hommage aux soldats africains du nord, du centre, du sud, de tous ceux qui sont venus mourir pour que les gens vivent la vie qu'ils vivent aujourd'hui en France.
Les tirailleurs.
Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs de partout en Afrique. Les gens sont venus mourir, tout le monde croyait et croit toujours à la paix. Et que si un être humain est en danger quelque part et qu'on nous demande de venir à l'aide, il y a des Africains qui sont sacrifiés pour que la France soit le pays qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'était cette amnésie de mémoire des Français, des Européens, des Américains. Moi, je suis africaine. J'ai entendu des histoires de ces guerres-là. Les gens qui sont venus mourir pour un pays qui les a colonisés au départ. Dire des choses, c'est dommage qu'une noire vienne chanter pour l'armistice. Je trouve que c'est une insulte à tous ceux qui sont venus mourir pour cette guerre-là.
C'est même une insulte aux soldats français.
Aux soldats français qui ont combattu côte à côte avec ces Africains-là. Donc, pour moi, mon rôle à moi, quand on m'a demandé de le faire, ma réaction était, il était temps. Que devant le monde entier, les hommes africains qui sont venus mourir pour la France soient reconnus.
Ça m'a fait penser, quand je vous ai vu à la télévision ce jour-là, ça m'a fait penser à Jessie Norman quand elle était venue chanter drapée du drapeau français pour le bicentenaire de la Révolution.
Eh bien, j'ai eu des tweets par rapport à ça. Imaginez la photo de la libération de Paris avec des soldats africains dedans. L'impact que ça aurait aujourd'hui sur les histoires de racisme et sur les commentaires stupides que les gens font.
Alors on y est, on y arrive, il y a plein d'enfants, il y a des sorties scolaires ici. Hein. Donc on doit leur apprendre des choses à ces enfants.
Il faut, mais il faut leur apprendre les choses vraies.
On est sous l'arc. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a envoyé une invitation pour venir chanter ici? Comment non. Ça s'est passé?
Non, moi, je n'ai jamais... C'est le ministère des Armées qui m'a invité.
Vous avez envoyé un mail, une lettre?
Ils m'ont envoyé un email, ils voulaient me rencontrer. Ils sont passés par mon agent, Olivier Glusman. Ouais. Et je les ai rencontrés. Et ils m'ont dit, voilà, on aimerait que vous chantiez à la commémoration du 11 novembre. J'ai dit, bon, d'accord, moi, c'est pour rendre hommage aux soldats africains et pour la paix, je le ferai. Donc, ils m'ont demandé de choisir une chanson. J'ai fait écouter plusieurs chansons et on est tous tombés d'accord sur Bléou. Bléou, c'est une chanson qui veut dire patience, qui veut dire doucement, qui veut dire la paix, qui veut dire plein de choses.
C'est presque une berceuse.
C'est comme une berceuse, mais en même temps, c'est profond. C'est comme une berceuse.
Qui soigne un peu les plaies.
Exactement, qui essaye de réconcilier les gens. Bléou, oui. Bléou, oui. Bléoui, miandak pelo.
vélo.
Alors vous étiez où exactement?
Je suis passée par là.
Donc vous étiez face à la défense?
Ouais, c'est là, face à la défense, en face à cette chef d'État.
Alors, Et les chefs d'État, ils étaient où?
Il y avait une partie derrière, il y en avait une partie là, autour.
J'aimerais bien qu'on regarde sur la photo. Jean, vous pouvez nous retrouver la photo des chefs d'État qui écoutent Angélique chanter? Alors voilà la photo. Vous êtes là dans cette superbe robe.
Mm-hmm.
Alors tout le monde vous regarde. Poutine a l'air...
De s'ennuyer.
Ah, ouais. Brigitte Macron est bien dedans.
Ouais.
Emmanuel Macron est content de lui.
Merkel est contente aussi.
Ouais, émue Merkel.
Émue, elle est très émue.
Trump, il n'est pas content. Il se demande, il dit...
Vous
mais
avez déjà vu Trump content?
Qu'est-ce qu'il se dit, là?
Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il dit. Non, mais j'en ai rien à faire, ça c'est clair. Trudeau, il était où, lui?
Ah, il est content.
Il est là, ouais, il est content. Ouais. Le roi du Maroc était content aussi.
Ouais. Lui. Alors Netanyahou, il n'est pas content.
Du tout. Et derrière moi, ici, c'était Erdogan. Il n'était pas content non plus.
Bah, Erdogan, ils ne sont jamais contents, ces gens-là. Vous avez ressenti quoi, Angélique Kidjo?
Beaucoup d'émotions. J'avais froid et quand j'ai commencé à chanter et que j'ai rencontré des regards, je me suis dit, eh bien, dis donc, vous n'avez pas envie d'entendre parler de la paix, moi, je vous parlerai de la paix.
Vous avez senti des regards hostiles?
Oui. Il y a un proverbe américain que j'aime bien. You have to stand for something or you fall for everything. Quand on croit en quelque chose, il faut se battre pour. Et la robe, aussi, il y avait un message. Ça, je vais oublier ça. C'est un pagne qui date du temps de ma grand-mère. Le dessin veut dire, ah oui, madame Jakagwe, la souris ne peut jamais faire partie du club des chats. Une personne a demandé à tous ses chefs d'État de venir au pouvoir. Si on n'est pas en mesure de gérer un pays, de faire son travail sans instrumentaliser la douleur d'un peuple, on n'a rien à faire à la tête d'un pouvoir.
Ici, au tout début des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu des destructions d'une statue dans l'Arc de Triomphe. Il y a eu des émeutes ici, très violentes.
Moi, je trouve que la France est un des pays où le droit de grève est quelque chose qu'il faut maintenir à tous les coups pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ce qu'on revendique, il faut que ce soit clair. La violence ne me touche pas.
Vous qui avez connu la dictature au Bénin, la dictature à Cuba.
Ben, combien d'opposants de Macron sont en prison? Les dictateurs, c'est comme ça qu'ils commencent. Hein, à mettre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux en prison direct. Il y en a combien en France? Ils ne savent pas en France. Ils ne savent pas ce que c'est que la dictature. Parce que notre liberté, elle est fragile.
Deux grands événements dans votre vie, là, un peu symboliques comme ça. Ici, le 11 novembre, et puis
la
marche des femmes, the Women March à Washington, au lendemain de l'élection de Trump.
Mais je me rappelle qu'on m'avait demandé de faire cette marche-là bien avant l'élection de Trump.
Vous dites Trump? Trump. c'est bien trouvé.
Moi, j'étais la première à qui on a parlé, j'ai dit oui.
Il y avait Madonna.
Il y avait Cher.
Angela Davis,
ouais. Il y avait des hommes aussi. Il y avait tellement de monde. Quand j'ai commencé à chanter cette chanson-là, les gens reprenaient la chanson en écho. Ma voix était partée. C'était un moment absolument incroyable.
C'est le prochain.
La chanson, c'était « Sam Cooke, a change is gonna come ».
Ouais.
Cette chanson a été écrite en 1963. Elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment évolué. Hein.
Gonna come. Oh, yes, it will.
Eh oui, le changement va venir. Et c'est le changement viendra de nous.
Le changement viendra des femmes ?
Principalement, parce que les femmes sont en première ligne.
Les Amazones. Elles ont été des guerrières. Aujourd'hui, les femmes yézidis ou les Peshmerga, au Moyen-Orient.
Toutes ces femmes-là, elles se bagarrent. Pourquoi ? Parce qu'elles savent profondément que donner naissance à un enfant, ce n'est pas anodin. Moi, ce qui m'intéressait dans cette Human March, c'est les droits des femmes. Les hommes qui font les lois contre l'avortement et tout. Les femmes qui sont violées par les mecs. Le mec, pourquoi il ne va pas en prison ?
Et sur l'excision, par exemple ?
C'est encore pire.
qu'est-ce que vous faites, par exemple, par rapport à ça ?
Il faut y arriver à faire des changements avec les femmes qui pratiquent l'excision. Les montrer du doigt et les victimiser, ce n'est pas bon, parce que les choses ne changeront pas. Parce que c'est un statut que les femmes ont. Et qui c'est qui a instauré ça ? Les hommes qui ne veulent pas de femmes coupées, si elles disent qu'ils ne veulent plus épouser des femmes coupées, ça s'arrêtera. Il faut des lois. À un moment donné, je me suis dit, comment on peut parler de ça ? Et une chose m'est venue en tête. Mon père avait l'habitude de dire toujours dans sa famille, les traditions qui feront du mal. Physiquement, mes enfants, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'on ne fasse pas de mal à mes enfants. C'est mon devoir de père. Les scarifications et tout ça, mon père a dit non. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si moi, mon père, moi, j'ai grandi en Afrique, c'est ce que j'ai dit au concert, j'ai dit, je suis une femme africaine. Et mon père, si mon père, lui, a pu préserver ses enfants contre toute douleur, contre mal qu'on peut leur faire à ses enfants, aucun d'entre vous ici, que vous soyez père, grand-père, oncle, frère, cousin, vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas préserver vos enfants parce que vous coupez une femme, c'est une douleur constante. J'ai fait ça en février, à la fin de l'année, la résolution a été signée par tous les pays.
Aux États-Unis, on les appelle les panthères roses, ces femmes qui marchent sur New York, après avoir brûlé publiquement leur soutien-gorge, symbole de leur condition de femme-objet.
Dans le monde, des femmes combattent et risquent leur vie ou leur liberté. Bernadette Devlin sort de prison. Elle décide de poursuivre sa lutte pour l'indépendance de l'Irlande du Nord. C'est à une femme, Madame Bean, que le Nord-Vietnam a fait confiance face aux Américains.
Apôtre de la non-violence, Martin Luther King est mort victime de la violence. Sa femme, Coretta, prend sa place.
Dans une cellule de prison à New York, une militante communiste noire, Angela Davis, risque sa tête.
Et on va où maintenant, Angélique ? On va au Baiser Salé ?
Oui, rue des Lombards.
Il faut qu'on traverse tout Paris, Jean.
Voilà.
C'est pas moi qui conduis. La vie est pas belle. Non, mais attends, les mecs, réfléchissez un peu.
Jean, vous serez canonisé. La France vous dit merci, Jean. Et l'Afrique Jean. Aussi. Alors, nous y voilà. On est devant le Baiser Salé. Il y a le Duc des Lombards. Et le Baiser Salé ?
Oh là 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 là. C'est au Baiser Salé, en fait, que j'ai commencé vraiment ma carrière ici. C'est Maria qui nous a engagés ici. On jouait là-haut.
Vous avez une petite émotion, Jean ?
Oui.
Vous voulez boire un petit verre, Jean ?
Non, merci. C'est la première fois au Baiser Salé ?
Moi, je suis déjà allée au Baiser Salé, mais c'est la première fois que je tourne au Baiser Salé.
Ah oui. Nous, à l'époque, on jouait de 10h du soir jusqu'à 4h du matin. Maria ?
Ça va ? Tu vas bien ? Je t'ai reconnue.
C'est vrai ?
Ah oui, enfin, t'as changé, mais pas tant que ça. Enchantée, Radio Nova. Comment ça va ?
Ça va.
Bon, quoi de neuf ?
Mais alors voilà, Angélique, on lui a demandé, tu te balades dans Paris, quels sont les lieux qui ont compté pour toi ? Elle a dit, il faut forcément que je passe rue des Lombards au Baiser Salé.
Dis donc, c'est pas possible, tu vieillis pas toi ?
Toi non plus ?
Ah non, mais c'est pas sérieux !
Mais regarde comment t'es belle !
Comment on va faire nous là, si on vieillit pas là, là ? Les jeunes là, vont finir par nous foutre dehors, hein. Elle a le flair pour détecter les bons talents.
Voilà. Moi c'est la musique, c'est ça. Alors le reste était indispensable pour pouvoir garder la musique, parce que la musique ça rapporte pas de fric.
Oh, tu m'étonnes.
Mais il fallait que ça existe, puisque c'était ça qui me passionnait, donc... Je fais bar, happy hour, tout ce que tu veux pour faire de la thune.
pour que la musique existe.
Voilà.
Pour que ça faire continue. Vivre la musique.
Voilà, c'est le bar du Baiser Salé qui subventionne la salle du Baiser Salé.
C'est normal.
Comment se porte le jazz à Paris ?
Très bien.
Très bien.
Il y a tout un tas d'écoles. Il y a les conservatoires de région, il y a les conservatoires de quartier. Il y a tous les mardis et tous les mercredis, 95% des musiciens qui jouent au Baiser Salé ont moins de 25 ans.
Et quand bah moi, je t'ai amené ici parce que c'est justement, comme je te disais dehors, c'est ici que j'ai commencé avec mes concerts. Absolument.
On peut aller voir la salle ?
Il y a tout le matériel, il y a des amplis, il y a tout ce qu'il faut.
Marie, moi j'ai trop souffert à l'arrêt. On montait les amplis, tout le bordel ici.
Tout.
Tu m'as carotté là.
Non mais c'est grâce à des gens comme toi.
Première fois que vous avez vu Angélique, Maria, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Alors, la première fois que j'ai vu Angélique, elle était toute jeune, elle était à l'école. Elle est arrivée un samedi soir, j'étais au bar, j'étais barmaid à cette époque-là. Oh. Et je vois une petite tête, elle était déjà comme ça. Elle s'approche du bar et elle me fait « Je veux chanter ici ». Et j'ai dit « Bah, tu viens faire une audition lundi, dimanche ». Et je suis venue donc, et en montant l'escalier, elle chantait un truc de Sade.
Ouais.
Et je dis « Putain, mais non, elle va pas me faire des Sade, c'est pas moi, c'est de la création, les mecs, ils viennent pour jouer, pas pour... Et je vais la voir et j'ai dit « Tu veux pas chanter autre chose ?» Elle me dit « Ah bon, vous voulez quoi ?» Je dis « Bah, je sais pas, hein, t'as pas de musique, toi, t'as pas... »
Ça y est.
Et donc, elle a commencé à chanter avec ses musiciens qui sortaient du CIM.
Ouais.
Et je suis descendue et j'ai été chercher du public. Parce que c'était pas possible de la laisser chanter juste pour moi.
Donc nous, on était très, très nerveux. Et on descend. Et puis Maria prend son grand calendrier, son grand planning. Et nous, on a le cœur qui bat. Et elle dit, allez, ben, vous venez de la semaine du... Parce qu'à l'époque, c'était ça. On est engagé pour toute une semaine. La semaine du 22 au 28 ou quelque chose comme ça. Et alors là, quand on est retourné dans le parking des Halles, on marchait sur un petit nuage.
Moi, si j'avais pas eu le Baiser Salé, j'aurais pas eu de carrière.
Donc, ici, on se fait des amis aussi.
On se fait des amis aussi ici. Et c'est un laboratoire. Le public qui vient ici, c'est un public connaisseur de musique. Si ça ne marche pas ici, tu peux oublier.
Ah non, ça c'est clair.
Ça, c'était la connexion avec les autres musiciens. À mon avis, ça, ça a été, voilà.
Vous êtes tombée comment dans le Baiser Salé, Maria ?
Ah là là.
C'est une longue histoire.
J'ai fait chanteuse de bal pendant quelques années. Et le batteur de l'orchestre de bal était et le père de mes enfants. Et était un chanteur d'un grand groupe qui a créé le Baiser Salé.
D'un groupe, on peut dire ?
Oui, oui, les Gibson Brothers, qui a fait un tube avec Cuba.
Cuba.
Voilà.
Que lo baila salsa. Badadada, papapa. Tout le monde a dansé dessus.
Ils ont gagné de l'argent et ils ont créé cet endroit. Et petit à petit, j'ai commencé à faire une vraie programmation. Avec mon goût perso.
On va faire le chin chin
chin chin
chin chin
chin chin
chin chin. On va faire le chin chin.
Bon, alors chin chin à quoi?
À l'amour.
À la vie.
Aux auditeurs de Nova.
Soyez fidèles, restez fidèles, on vous adore.
Radio Nova 83-84 avec Actuel et
Jean-François Bizot.
Jean-François Bizot, c'était un endroit qu'ils aimaient beaucoup aussi à cette époque-là.
Le gros bisou.
Bisous, bisous.
Bisous, bisous. À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le nouvel album d'Angélique Kidjo s'appelle Celia, en hommage à la chanteuse cubaine Celia Cruz. À la dérive, c'est Aurélie Svez au micro, Bertrand Chompton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous sur Nova.